Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Samuel Paty incarnait au fond le professeur dont rêvait Jaurès dans cette lettre aux instituteurs. La fermeté unie à la tendresse.
À travers les mots d'Emmanuel Macron, c'est toute la France qui a rendu hommage ce soir à son professeur assassiné, Samuel Paty, visage d'une République ébranlée mais qui ne cédera pas face au terrorisme islamiste, a assuré le chef de l'État. Une cérémonie poignante à la Sorbonne à laquelle ont assisté de nombreux élèves et enseignants, nous les entendrons, récit complet de cet hommage dans ce journal. Nous reviendrons sur l'enquête et le rôle funeste joué par deux collégiens de Conflans. Sans eux, le tueur n'aurait pas réussi à identifier Samuel Paty. Dans ce journal également, cet énième tour de vis face à l'épidémie, de nouveaux départements vont débasculer demain en état d'alerte maximale. La fin d'un marathon judiciaire pour un agriculteur intoxiqué par un herbicide, Monsanto définitivement condamné. Et puis le foot, l'OM dispute en ce moment son premier match de Ligue des Champions depuis 7 ans. C'est face aux Grecs de l'Olympiakos, 0-0 pour l'instant, nous irons sur place. Le temps de demain, très automnal, pluie et vent au programme, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en forte baisse, moins 1,53% à 4 853 points. Elle est détaillée à venir avec Didier Hamot de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Xavier Niel veut faire le ménage chez Unibail Rodamco Westfield, leader mondial des centres commerciaux. Son patron Christophe Cuvillier lui répond ce soir sur Europe 1 au micro d'Emmanuel Duteil. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est donc un hommage simple et poignant qui a été rendu ce soir à Samuel Paty, une cérémonie pudique à l'image de ce professeur assassiné pour avoir enseigné la liberté. Un combat essentiel qu'a rappelé Emmanuel Macron dans la cour d'honneur de la Sorbonne.
Samuel Paty incarnait au fond le professeur dont rêvait Jaurès dans cette lettre aux instituteurs qui vient d'être lue. La fermeté unie à la tendresse. Celui qui montre la grandeur de la pensée, enseigne le respect, donne à voir ce qu'est la civilisation. Celui qui s'était donné pour tâche de faire des républicains. Parce qu'il incarnait la République qui renaît chaque jour dans les salles de classe, la liberté qui se transmet et se perpétue à l'école. Samuel Paty fut tué. Parce que les islamistes veulent notre futur et qu'ils savent qu'avec des héros tranquilles tels que lui, ils ne l'auront jamais. Eux séparent les fidèles et les mécréants. Samuel Paty ne connaissait que des citoyens.
Nous continuerons le combat pour la liberté dont Samuel Paty est devenu le visage, a conclu le chef de l'État face au cercueil du professeur. Discours très fort, précédé par les interventions émouvantes de deux enseignants et d'une élève. Je vous propose de revivre les moments marquants de cet hommage national. Et vous étiez sur place, Pierre Herbulot.
Oui, une cérémonie de 45 minutes. Samuel Paty a d'abord reçu à titre posthume la Légion d'honneur et le titre de commandeur des Palmes académiques. Son cercueil est ensuite arrivé dans la cour de la Sorbonne sur cette musique de U2 qui parle d'amour et de séparation. Puis trois textes ont été lus par des amis et collègues du professeur assassiné, par un élève aussi, comme cette lettre de Camus à son instituteur, écrite juste après l'obtention par l'écrivain du prix Nobel de littérature.
Sans vous, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers, qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissante élève.
Après le discours d'Emmanuel Macron, l'orchestre à cordes de la garde républicaine a joué une Marseillaise, suivie d'une minute de silence et de recueillement.
Le récit pour Europe 1 de Pierre Herbulot. On l'a entendu parmi les 400 personnes qui ont assisté à la cérémonie dans la cour de la Sorbonne, de nombreux élèves et enseignants. Marie-France est professeure de terminale. Elle est venue avec une dizaine de lycéens rendre un dernier hommage à Samuel Paty.
Oui, bien sûr, émouvante. C'était le jour de l'émotion. c'était le lieu aussi, hein, l'émotion et en même temps le discours d'Emmanuel Macron était particulièrement fort ce soir. La façon dont il s'est adressé à Samuel Paty, professeur, et en même temps s'adressant à nous, donc c'était particulièrement émouvant. Et puis au-delà de l'émotion, il y avait ce sentiment de ne rien laisser passer, puis de continuer à se battre, de continuer à transmettre. On a tous pensé à lui, à Samuel, et puis à sa famille.
Est-ce qu'il y a une forme de fierté quand on voit l'hommage qui est rendu ici à la Sorbonne, hommage national ?
Oui, mais il a fallu tout ça. Mais effectivement, c'est une reconnaissance que nous n'avons pas toujours, que nous n'avons plus hein, depuis très très longtemps. Mais effectivement, il y a une certaine fierté, mais elle a un goût amer, cette fierté, hein, elle a un goût acre, on va dire.
L'amère fierté de cette enseignante qui a donc assisté à l'hommage national de ce soir. À noter que des centaines de personnes s'étaient massées également à l'extérieur de la Sorbonne et face au Panthéon, où des écrans géants ont retransmis cette cérémonie très émouvante. La France a donc rendu un dernier hommage à Samuel Paty, mais en parallèle, l'enquête, elle, se poursuit. Le procureur antiterroriste a dévoilé cet après-midi les derniers développements. 7 personnes vont être présentées à un juge d'instruction pour complicité d'attentats terroristes. Et parmi ces suspects, il y a 2 collégiens dont le rôle dans ce drame a malheureusement été déterminant, Gladys Laffitte.
Oui, sans eux, le tueur n'aurait jamais pu identifier Samuel Paty. Une identification rémunérée entre 300 et 350 euros. C'est ce qu'a expliqué Jean-François Ricard, procureur de la République antiterroriste. Pendant plusieurs heures, ils ont même attendu la sortie des cours en compagnie du terroriste à l'abri des caméras de vidéosurveillance.
Ce dernier leur a déclaré avoir l'intention de filmer le professeur, de l'obliger à demander pardon pour la caricature du prophète, de l'humilier, de le frapper. Peu avant 17 heures, plusieurs adolescents, en lien avec les premiers, désignaient à l'assaillant M. Samuel Paty au moment où il sortait du collège.
Un passage à l'acte qui n'aurait pas été possible non plus sans la publication des messages et des vidéos du père de la collégienne et d'Abdelhakim Sefrioui. Le procureur de la République antiterroriste fait un lien de causalité directe entre leurs agissements et la mort du professeur.
Il est aujourd'hui clair que le professeur a été nommément désigné comme une cible sur les réseaux sociaux par les 2 hommes au moyen de manœuvres et d'une réinterprétation des faits. La polémique enclenchée par M. Brahim C. reposait sur des faits factuellement inexacts.
Pendant plusieurs jours avant l'attaque, le terroriste et le père de famille se sont écrits, se sont appelés. En garde à vue, l'homme dit ne pas s'en souvenir spécifiquement parmi la multitude de messages de soutien reçus après sa vidéo.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Par ailleurs, une quinzaine d'enquêtes pour des faits d'apologie du terrorisme, de menaces de mort ou de provocation au crime ont été ouvertes depuis l'assassinat de Samuel Paty. La région Occitanie a tenu elle aussi à rendre hommage au professeur assassiné, hommage visuel et courageux puisque les caricatures de Mahomet ont été projetées ce soir sur les façades des hôtels de région à Montpellier et Toulouse. Toulouse où l'on a appris qu'une lycéenne a été mise en examen aujourd'hui. L'adolescente aurait insulté et menacé une enseignante après un cours d'éducation civique où il a été question de voile islamique, Benjamin Peter.
Oui, il s'agit d'une jeune fille de 16 ans du lycée Pierre Aragon de Muret, à quelques kilomètres de Toulouse. Avec 6 autres lycéens, elle a été placée en garde à vue ce lundi. L'affaire remonte au 9 octobre, soit pile une semaine avant l'attentat qui a coûté la vie à Samuel Paty. Au menu de ce cours d'éducation civique, l'égalité homme-femme. Très vite, le débat dérive sur le voile islamique. 4 élèves s'opposent alors aux idées de l'enseignante, défendent notamment l'application de la charia dans certains pays. La discussion se poursuit après la fin du cours, mais le débat va s'ébruiter dans l'ensemble du lycée. Et une des filles qui n'avait pas assisté au cours décide d'aller à la rencontre de l'enseignante pour l'insulter très violemment. Elle est accompagnée de 2 autres garçons. Tous les 3 ont donc été sanctionnés par le proviseur. La jeune femme de 16 ans a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par l'académie. Mais l'enseignante décide de porter plainte à la gendarmerie de Muret. Une affaire qui a été prise très au sérieux par le parquet. Ce qui a conduit donc à ces 7 gardes à vue, à l'issue desquelles la jeune fille la plus virulente a été mise en examen pour outrage sur personne détentrice d'une mission de service public.
Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h10 sur Europe 1, merci d'écouter le journal de la nuit. On espérait peut-être naïvement que l'instauration du couvre-feu dans 9 métropoles allait nous offrir un peu de répit. Eh bien c'est raté, d'autres villes vont basculer à leur tour en zone d'alerte, Claudia Bertram.
Oui, c'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement cet après-midi à l'issue du Conseil des ministres. Demain, Jean Castex annoncera qu'un certain nombre de départements basculent en alerte maximale, ce qui implique que de nouvelles métropoles seront concernées par le couvre-feu. Les chiffres ne sont pas bons. L'un des indicateurs, le taux d'incidence, est en hausse, par exemple à Clermont-Ferrand, Tours ou Nantes. Au total, ce taux d'incidence dépasse le seuil d'alerte maximale dans 22 départements, d'après Santé publique France, et signe de l'inquiétude de l'exécutif face à la progression de l'épidémie. C'est donc le Premier ministre Jean Castex qui fera un point sur la situation demain à 17h, à l'occasion du point presse hebdomadaire habituellement tenu par Olivier Véran, le ministre de la Santé. Face à la recrudescence de l'épidémie, l'exécutif veut aussi prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février, ce qui nécessite un vote du Parlement. Le Premier ministre a tenu une réunion avec les chefs de parti cet après-midi, mais n'a pas donné davantage de détails, d'après certains participants.
Claudia Bertram. Mais on comprend mieux ce nouveau tour de vis à la découverte des derniers chiffres de l'épidémie. La barre des 34 000 décès a été franchie ce soir alors que les nouvelles admissions en réanimation continuent de s'accélérer. 284 de plus ces dernières 24 heures. L'Irlande sera ce soir à minuit le premier pays européen à se reconfiner pour 6 semaines. Le gouvernement tchèque a annoncé aujourd'hui une mesure similaire. Quant à l'Espagne, le seuil du million de cas a été franchi. C'est une première dans l'Union européenne. L'épidémie qui sera au cœur d'un sommet de l'UE la semaine prochaine. Les chefs d'État des pays membres feront un point sur leur stratégie commune, si tant est qu'elle existe. Les 27 ont en revanche trouvé un accord concernant la nouvelle politique agricole commune. Les futures aides de la PAC seront soumises à des normes environnementales plus strictes, ce que la France salue. Les ONG environnementales sont de leur côté beaucoup plus nuancées, tout comme les agriculteurs qui attendent maintenant le vote des eurodéputés, préalable indispensable avant une éventuelle application de cet accord à partir de janvier 2023. Et d'agriculteurs, il en a été justement question aujourd'hui à la Cour de cassation, avec l'épilogue d'un combat judiciaire qui dure depuis 2007. Monsanto a été définitivement condamné dans le dossier l'opposant à Paul François, un céréalier de Charente, gravement intoxiqué après avoir inhalé des vapeurs d'un herbicide. Le pourvoi en cassation formé par le géant des pesticides a donc été rejeté pour le plus grand soulagement de l'agriculteur.
Une délivrance parce que 14 ans de combat, on ne s'imagine pas ce que ça veut dire au quotidien de s'attaquer à une multinationale comme Monsanto. Là, la Cour de cassation définitivement nous donne raison sur tous les points. Donc c'est une délivrance de dire qu'il n'y a plus à penser à ce volet juridique en se disant quels vont être encore leurs arguments pour essayer de dire que leur produit n'est pas dangereux, que cet accident n'a pas eu lieu, que tout ça c'est de la fabulation, tout ce qu'on a pu entendre. La justice n'a pas été dupe. Ce n'est pas fini pour autant. Bayer Monsanto ont obtenu de retarder l'estimation pour les dommages et intérêts. Il faut maintenant que je m'occupe de moi parce qu'il y a eu des conséquences sur ma santé, mais un combat comme celui-ci a des conséquences psychiques aussi. J'ai des céphalées suite aux lésions au niveau cérébral qui sont très violentes et qui m'immobilisent et m'empêchent de travailler correctement. Et je suis souvent alité. Plus cette pression dans les jours qui viennent, je vais m'isoler pour me reposer parce que sinon je ne tiendrai pas longtemps.
Le céréalier Paul François, joint pour Europe 1 par Stéphane Place. C'est une hausse colossale et inquiétante. L'UNEDIC prévoit l'un des minimisation de 420 000 demandeurs d'emploi supplémentaires d'ici fin 2020 par rapport à l'année dernière. Une situation qui va creuser dans une ampleur inédite le déficit de l'UNEDIC. L'organisme qui gère le régime d'assurance chômage table sur un trou de près de 19 milliards d'euros en 2020. Le pape François défend le droit des couples gays de vivre au sein d'une union civile. Les personnes homosexuelles ont le droit d'être en famille. Ce sont des enfants de Dieu. C'est ce qu'a déclaré le souverain pontife dans un documentaire présenté aujourd'hui. Allez, sans transition, on passe au foot, direction Athènes où l'OM affronte en ce moment l'Olympiakos, premier match de Ligue des Champions pour les Marseillais depuis 7 ans. Stéphane Frangy, vous êtes dans les tribunes, comment ça se passe pour les Phocéens ?
Écoutez, une première grosse frayeur, le score est de 0-0, mais un but vient d'être refusé aux Grecs de l'Olympiakos pour une position de hors-jeu. Pourquoi une frayeur? Puisque ce but a été refusé finalement après une délibération de l'arbitrage vidéo. Donc les Marseillais sont prévenus. Heureusement, ça fait plusieurs fois que les Grecs se mettent à la faute, justement, manque de vigilance sur ces positions de hors-jeu. Les Grecs qui sont plutôt dominateurs dans cette partie, mais les Marseillais ont quand même un joli coup à jouer. Il y a eu plusieurs plusieurs occasions, notamment des frappes hein, de Thauvin, un joli coup franc de Payet, mais qui manquait un petit peu de puissance. Et puis à l'instant, il y a eu ce duel, grosse occasion de ce match, ce duel entre Dario Benedetto et le gardien grec José Sa, qui a remporté son duel. L'OM tient bon, il y a vraiment un coup à jouer ce soir. On va peut-être voir avec les changements qui vont être procédés pour essayer d'emballer un petit peu cette partie à l'heure de jeu. En tout cas, score nul et vierge entre l'Olympique de Marseille et l'Olympiakos.
Merci Stéphane Frangy en direct d'Athènes pour Europe 1. On vous retrouve Stéphane à la fin de cette édition pour vivre avec vous les dernières minutes de cette rencontre. La météo, Anissa Haddadi, pluie et vent au programme pour demain.
Oui, c'est encore une journée agitée, hein, effectivement, pour demain, avec en bord de Méditerranée, sur l'Occitanie, les Pyrénées, le Massif central et la vallée du Rhône, du vent, ce vent d'est qui se maintient avec des rafales jusqu'à 80 km/h dans les terres. Sur les Cévennes et le Languedoc-Roussillon, de la pluie encore demain, des pluies qui se renforcent dans la journée. Et puis du sud-ouest jusqu'au Grand Est, en passant par l'Auvergne, donc vous le voyez sur une belle diagonale hein, qui coupe la France en deux, et bien le ciel sera couvert demain avec des averses qui prendront parfois un caractère orageux. Sur le quart nord-ouest, sur les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, le ciel est partagé entre nuages et éclaircies. Finalement, c'est sur la Côte d'Azur et la Corse qu'il fera le plus beau, avec un soleil assez généreux. Les températures, elles sont un petit peu plus fraîches demain matin, avec à l'ouest 9 à 12 degrés, 11 à 17 partout ailleurs. Et puis au meilleur de la journée, nous aurons 16 à 21 degrés sur la moitié nord, 20 à 24 au sud et jusqu'à 26 en Corse à Ajaccio.
Merci Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse top à Wall Street avec Didier Hamo de boursier.com, suivi de l'interview Echo. Xavier Niel veut faire le ménage chez Unibail Rodamco Westfield, leader mondial des centres commerciaux. Son patron Christophe Cuvillier lui répond ce soir sur Europe 1 au micro d'Emmanuel Duteil. A tout de suite.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, merci d'écouter le journal de la nuit.
Et maintenant, Top à Wall Street est présenté par Audi Occasion Plus, le label qui vous garantit de profiter longtemps de votre Audi, quel que soit son âge.
Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamo de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street reste toujours aussi fébrile à 15 jours seulement de l'élection présidentielle américaine.
Ah oui, la pression monte à 15 jours du scrutin. Les négociations autour d'un plan de relance budgétaire s'éternisent. Ça pourrait durer même après les élections, si l'on en croit les dernières rumeurs ce soir. Ça donne de la baisse sur le Dow Jones, moins 0,35%. 28 211 points, le Nasdaq, moins 0,28%, 11 485 points. Il y a quand même un titre qui se distingue, c'est Snapchat, le réseau social flambe de 28%, 36,50$. Oui, c'est spectaculaire, après avoir fait état de 249 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et d'un chiffre d'affaires de 679 millions de dollars au troisième trimestre. Donc une forte hausse de Snapchat ce soir de 28%. Facebook d'ailleurs en profite hein, dans le secteur pour grimper. C'est moins spectaculaire de 4%, mais 4% c'est quand même pas mal, à $278.73 pour Facebook. En revanche, Netflix repère 7%, $489 malgré 2,2 millions de nouveaux abonnés au troisième trimestre. Le marché attendait mieux et Netflix donc baisse ce soir de 7%. Le pétrole aussi retombe sur les $40 le baril, moins 2,7%. Et l'euro est ferme. Il reste autour des 1,1850 face au dollar.
La Bourse de Paris a nettement reculé ce soir de plus de 1,5% sur le CAC 40.
1,53%, forte baisse. 4854 points plombés par le resserrement des mesures sanitaires en Europe pour lutter contre la deuxième vague épidémique. Ça donne un secteur aérien qui rechute. Airbus, moins 4,5%. Air France, moins 4,5% aussi. ADP, moins 2,5%. Thalès, moins 2%. L'hôtelier Accor retombe aussi lourdement de 3,5%. Et puis Vinci cède 3,2%. Le groupe prévoit une baisse de 70% du trafic de Vinci Airport cette année. Vinci en baisse de 3,2% à la clôture ce soir.
Exception du jour, Somfy qui a grimpé de plus de 11%.
Oui, ça flambe, 135,40€ au plus haut pour le groupe haut savoyard. Somfy, le spécialiste de la robotique, ignore la crise sanitaire grâce à une forte demande du côté de l'équipement de la maison. De quoi anticiper une hausse du chiffre d'affaires de 3 à 4% cette année et une remontée de la marge opérationnelle de 18%. Le groupe Somfy vaut ce soir plus de 5 milliards d'euros en bourse de Paris. Hein, c'est pas mal pour le petit Savoyard. Sur les autres places financières, ça baisse partout. Forte baisse d'ailleurs à Milan, moins 2%. Madrid, moins 1,7%. Bruxelles, moins 1,8%. Francfort, moins 1,4%. Et le CAC 40 en baisse d'1,53%. 4854 points.
Toutes les infos de la bourse avec le grand Savoyard Didier Hamo de boursier.com. À demain Didier.
À demain.
22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview Echo.
Tout de suite retrouvez l'invité Echo avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Christophe Cuvillier.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du directoire d'Unibail Rodamco Westfield. C'est le leader mondial des centres commerciaux. Vous avez en France notamment les 4 temps à la Défense ou la Pardieu à Lyon. Vous êtes aussi présent un peu partout dans le monde et notamment aux États-Unis. C'est là où vous avez acquis récemment Westfield avec par exemple le centre commercial du World Trade Center. Alors si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est que vous êtes au cœur d'une très intense bataille d'actionnaires. Et vous avez face à vous pas n'importe qui, notamment Xavier Niel, fondateur de Free et petit actionnaire d'Unibail. Pour lui, c'est clair, votre groupe, le groupe que vous dirigez, est mal géré et l'acquisition de Westfield aux États-Unis aurait été une catastrophe pour votre groupe. Ce soir, vous lui répondez quoi sur Europe 1 ?
Je crois qu'il est important de comprendre que l'investissement des activistes dans le groupe a été réalisé bien après l'acquisition de Westfield et donc en parfaite connaissance de cause. Et donc nous sommes surpris évidemment que la critique vienne aussi longtemps après. Quand on investit en connaissance de cause dans une entreprise, on n'en critique pas la stratégie passée. C'est un peu surprenant effectivement.
C'est surprenant, mais je trouve que l'image qu'il utilise parle à tout le monde. Il dit c'est comme si on avait acheté une maison à Miami au pire moment de la crise aux États-Unis de l'immobilier. C'est-à-dire que ça ne vaut plus grand-chose aujourd'hui.
Oui, ce n'est pas exact, puisque d'après leur même calcul, les affaires américaines valent 14 milliards d'euros. Donc je pense qu'il y a des images qui sont employées, je pense qu'il faut être à peu près sérieux. La raison pour laquelle on a fait cette acquisition de Westfield, c'est parce que c'est une entreprise magnifique qui possède un certain nombre de très grands actifs aux États-Unis et en Angleterre, les deux meilleurs actifs anglais, et dont la stratégie en fait était assez similaire à la nôtre, c'est-à-dire se concentrer sur très peu d'actifs dans très peu de villes, mais les meilleurs actifs des meilleures villes. Donc ça n'a rien à voir avec une villa je ne sais où, c'est simplement une opération stratégique qui a été faite avec une très belle entreprise et qui a permis à Unibail Rodamco de se déployer dans deux nouveaux pays. Certes, le marché de l'immobilier commercial est beaucoup plus difficile qu'il ne l'était en 2017. C'est la crise du Covid qui passe totalement sous silence et qui a eu cet effet assez fort, évidemment, sur d'autres activités, puisque nous avons eu la quasi-intégralité de nos centres fermés pendant 2 mois. Cette activité est une activité stratégique. Les choses sont plus compliquées pour tout le monde, mais nous y travaillons, bien entendu, avons déjà réalisé beaucoup de choses depuis l'acquisition de Westfield, notamment des synergies de coûts, des synergies de revenus.
Mais c'est vrai qu'eux vous disent, vous étiez un leader incontesté en Europe, et vous l'êtes toujours, vous avez les plus beaux centres commerciaux d'Europe, ça suffisait, ça servait à rien d'être un nain aux États-Unis ou en Grande-Bretagne.
Vous savez, on pouvait dire la même chose à l'époque d'Unibail, quand Unibail était français seulement. Unibail a décidé de fusionner avec une entreprise hollandaise et est devenu européen. On aurait pu dire à l'époque, pourquoi ne pas rester français, on était les champions de France. Non, ça fait partie des choses qu'une entreprise doit faire. Je crois que ce qui est intéressant ici, c'est que tout le monde reconnaît la qualité des équipes opérationnelles d'Unibail Rodamco Westfield et la qualité du travail que les équipes font. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup en ce moment des équipes, mais je peux vous dire qu'elles font un travail formidable depuis 7 mois, depuis le début du confinement et de la crise du Covid. Et comme vous le savez, notre démarche aujourd'hui, c'est une démarche de renforcement du bilan de l'entreprise.
C'est pour ça, c'est-à-dire que vous voulez faire ce qu'on appelle une augmentation de capital, c'est-à-dire apporter de l'argent frais, des fonds propres pour essayer de faire repartir tout ça, une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros, ce qui est énorme à l'échelle du groupe. Et là aussi, tous ces actionnaires activistes, dont Xavier Niel, le fondateur de Free, vous disent « mais il n'y a pas besoin de ça, vendez plutôt ce dont on n'a pas besoin dans le groupe ».
Voilà. Alors, en fait, l'augmentation de capital est l'un des éléments d'un plan de 9 milliards d'euros de renforcement du bilan du groupe. Nous avons effectivement acheté Westfield à l'époque 2/3 en actions, 1/3 en cash, donc en dette. Nous avons un niveau d'endettement aujourd'hui qui est élevé. L'augmentation de capital permet d'agir aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps, et sans mettre en péril l'avenir de l'entreprise, parce que nul ne sait combien cette crise du Covid va durer, nul ne sait combien le marché sera structurellement transformé. Donc notre responsabilité en tant que chef d'entreprise, c'est de prendre les décisions qui sont en notre pouvoir maintenant et ne pas parier sur des cessions inconsidérées.
De façon très concrète, comment ça va aujourd'hui dans les centres commerciaux ? Il y a du monde ? Prenons l'exemple de la France. Comment ça va chez Unibail Rodamco Westfield ?
Dans nos centres, nous avons mis en place des protocoles sanitaires très stricts qui permettent aux gens, d'abord avec du gel hydroalcoolique, des sens uniques dans les centres, beaucoup de renforcement, comme vous l'imaginez, du nettoyage. Nos protocoles sanitaires ont été validés par Bureau Veritas, etc. Donc c'est très très important. Et puis nous avons également une limitation du nombre de gens qui peuvent entrer dans les centres. Donc nous sommes très très précautionneux pour la santé de nos clients. C'est évidemment le plus important. Mais les clients sont retournés, bien entendu. Nous avons
Et ils sont là, y compris là, en ce moment, au moment des nouvelles restrictions dans les grandes métropoles dans lesquelles vous êtes installé ?
Notre activité, elle est essentiellement de jour, donc la clôture des restaurants, par exemple, et le couvre-feu à 21h n'affecte pas trop le commerce dans la journée. Ça affecte par contre des activités qui sont très importantes pour nous, qui sont le cinéma, par exemple, et donc, par exemple, le restaurant avant ou après le cinéma. Mais la plupart des activités se passent de jour. Il y a un petit peu moins de monde, évidemment, puisque les gens sont inquiets avec la propagation du virus, mais c'est toujours pareil, c'est que quand le virus disparaît, les gens reviennent. Quand le virus revient, les gens reviennent un peu moins nombreux. Nous étions dans des fréquentations qui était grosso modo, en fonction des centres, entre -5 et -20% par rapport à l'année dernière. On comprend que la priorité, c'est de préserver la santé des Français. Pour moi, la priorité, c'est aussi, et en même temps, si j'ose dire, préserver la santé de l'économie, c'est-à-dire permettre à nos enseignes de fonctionner le mieux possible, permettre à nos restaurants aussi de fonctionner le mieux possible.
Et donc de leur couper les loyers, puisqu'on sait qu'il y a eu une énorme bataille. Alors, a priori, vous faites partie des groupes qui ont essayé de jouer un petit peu le jeu, mais où est-ce qu'on en est de façon très concrète ?
Vous avez combien de... Je corrige ce que vous dites, nous avons joué beaucoup le jeu. Je pense qu'il était très important que nous aidions effectivement nos enseignes, et au-delà de la bataille de communication qui a pu avoir lieu au moment du confinement, ce que nous ne souhaitions pas, c'était négocier pendant le confinement parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Mais je peux vous assurer que j'ai reçu beaucoup de messages de soutien des enseignes, car nous avons trouvé beaucoup d'accords avec les enseignes et nous continuons à en trouver. Alors ça prend de temps en temps un petit peu de temps. Notre intérêt à tous, c'est de pouvoir poursuivre l'activité dans les meilleures conditions, c'est-à-dire que les enseignes puissent passer ce moment très difficile pour elles, et qu'une grande entreprise comme la nôtre puisse là aussi passer cette crise sans précédent, d'une ampleur sans précédent, le mieux possible pour ensuite se tourner vers l'avenir, pour construire l'avenir ensemble.
Eh bien, merci beaucoup Christophe Cuvillier, le président du directoire d'Unibail Rodamco Westfield, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain 22h20 sur Europe 1.
Merci Emmanuel Dutheil, interview à retrouver sur notre site europe1.fr.
C'était l'invité éco avec Chronopost. Chaque jour, Chronopost accompagne les PME françaises. Chronopost, l'expert de vos livraisons à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr.
Restez avec nous dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain et faire un dernier crochet en Grèce où l'Olympique de Marseille affronte en ce moment l'Olympiakos. A tout de suite sur Europe. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On commence avec Libération. Monsieur le professeur, titre sobrement Le Quotidien, le tout accompagné d'une photo d'un garde républicain tenant dans ses bras un portrait de Samuel Paty. Le visage de la République, écrit pour sa part Ouest France, qui montre Emmanuel Macron debout face au cercueil du professeur. Et maintenant, que fait-on, s'interroge en une Le Figaro. Uni dans l'hommage à Samuel Paty, la nation attend des actes pour endiguer la montée de l'islamisme, écrit Le Quotidien. Qui revient également sur ces professeurs qui aujourd'hui se sentent abandonnés. Les témoignages racontent toujours la même chose. Des pressions locales de parents ou d'adolescents contestant la position d'un enseignant auprès de sa hiérarchie et l'institution, l'éducation nationale, qui opte pour le pas de vague. Mais le pas de vaguisme, comme l'écrit Vincent Trémollet de Villers dans son édito, n'est pas propre à l'éducation nationale. On le retrouve partout, dans le gouvernement, l'administration, les salles de rédaction, les ligues de vertu, les églises, l'hôpital, la police, les entreprises. La peur d'enfreindre un tabou prime sur le réel et annihile toute réaction, estime l'éditorialiste du Figaro à méditer. Allez, comme promis, direction Athènes où l'OM affronte en ce moment l'Olympiakos, match de Ligue des Champions. Stéphane Frangy, où en est-on ?
Eh bien, 74e minute de jeu et le score qui est toujours nul et vierge entre les deux clubs. Cette action chaude à l'instant pour l'Olympiakos, c'est cette frappe de Mathieu Valbuena aux 5 mètres et la superbe parade de Steve Mandanda. Les Grecs toujours dominateurs, mais c'est sérieux en défense hein, côté marseillais. On tient bon. Et puis à souligner aussi hein, c'est cette tendance fâcheuse des Grecs de se mettre en position de dehors, juste qui a bien aidé les Marseillais ce soir, qui peuvent quand même s'en vouloir hein, de ne pas avoir mieux profiter des quelques temps forts, hein, notamment on pense à ce duel tout à l'heure entre Dario Benedetto et le gardien José Sa, ou encore cette frappe en début de première mi-temps tout à l'heure de Florent Thauvin qui a vraiment manqué la lucarne de peu. 75e, allez, il nous reste quoi, encore un quart d'heure à jouer dans cette partie. Il y a quelque chose à faire pour essayer vraiment que ce retour à la compétition reine européenne soit vraiment réussi pour ces Olympiens, mais pour l'instant zéro partout face à l'Olympiakos.
Merci beaucoup Stéphane Frangy en direct d'Athènes pour Europe 1. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien, comment allez-vous ?
Je vais comme on peut, après cet hommage poignant qui, je pense, a ému des millions de Français.
Oui, énormément. très poignant. Je n'en ai plus de voix, vous voyez.
Poignant est nécessaire, je pense. J'espère que vos auditeurs trouveront des réponses à nous donner, en tout cas ce soir, pour essayer de faire en sorte que ce genre de drame ne se reproduise plus.
39-21. Il va en être question, en tout cas dans cette libre antenne. Je vous dis à tout à l'heure pour le flash à 23h. À tout à l'heure, Julien.
À tout à l'heure.